France Culture.
Un orage a soufflé sur la nuit du vieux monde. Il a été mis la tête en bas, comme dans une chambre obscure. Au matin, il ne restait qu'une toile vierge, où il y avait tout à composer. Nous ne pouvions plus rester au bord du tableau. Alors nous y sommes entrés pour le peindre de l'intérieur.
Jacques-Louis David, 1748-1825, La fureur de peindre. Romain Weber, Julie Béressy. Guillaume Mazot.
Oui.
Qui est Jacques-Louis David ?
Jacques-Louis David, c'est le plus grand homme médiatique de la Révolution française. Voilà, et de la fin du XVIIIe siècle. C'est un peintre, mais on le voit d'une manière finalement assez classique, rétrospectivement. Mais c'est un homme des médias. À travers ses œuvres, en tant que peintre classique au départ, d'une certaine manière, à l'Académie. Puis dans son engagement politique et sa fréquentation de plein d'objets, de supports différents. Les médailles, les fêtes. Voilà, c'est à la fois un metteur en scène, un homme de caricature, un homme de grands tableaux. Et en fait, du coup, c'est lui qui mène les batailles culturelles pendant la Révolution française. En tout cas, c'est le chef de file, quoi.
Vous nous recevez au Louvre, là, Sébastien Allard. Vous êtes directeur du département des peintures et vous êtes aussi le commissaire de cette exposition dans laquelle on est. David, on est maintenant 2025, 200 ans, c'est le bicentenaire de sa mort. Et vous dites qu'ouvrir cette exposition, c'était réouvrir le cas David. Qu'est-ce que c'est ? C'est un cold case, Jacques-Louis David ?
Alors Jacques-Louis David, oui, c'est presque un, enfin c'est plus qu'un cold case parce que c'est un cas qui reste toujours chaud en raison des liens entre l'artiste et l'homme politique et que son engagement politique a été un engagement pendant la Révolution, même pendant les années les plus violentes de la Révolution en 1793-94 et que la Révolution est encore aujourd'hui le socle sur lequel la société actuelle repose. Donc c'est quelqu'un qui clive, je dirais encore aujourd'hui. C'est quelqu'un qui clive aussi parce que dans son engagement politique, il a servi beaucoup de régimes. Il a vécu sous 6 régimes, mais il a servi la Révolution, il a servi l'Empire, Bonaparte, puis Napoléon, donc c'est quelqu'un qui a des convictions, mais qui est en même temps avide de pouvoir et désireux de rester tout le temps le grand maître, le premier. Il a un sens agonistique de la compétition, donc de l'emporter sur tous ses rivaux.
David Chantrane, vous nous accueillez ici, dans les locaux de la revue du Souvenir napoléonien. Alors ici, on est accueilli par des bustes de Napoléon, des peintures de Napoléon, toute une bibliothèque. Là, on est dans la salle de réunion, donc on est entouré de plein de livres de Napoléon. Et puis, en face de nous, il y a un paperboard. Ah, je regarde, code Wi-Fi, Napoléon, mot de passe, Napoléon 1804.
Effectivement, cette année 1804 est même marquée dans le code Wi-Fi. Ça veut dire que ça reste une année majeure. Et pour David, c'est une année importante dans sa carrière. Parce que lui, qui attendait tous les honneurs, il va devenir premier peintre de l'empereur. C'est quand même très surprenant de se dire qu'il est passé d'un héros républicain qui était Robespierre, un héros qui redevient un peu d'une certaine monarchie avec Napoléon.
Prologue. Le peintre et le cadavre.
Vous êtes historien de la Révolution française, Guillaume Mazot. Je voudrais qu'on commence ce récit par un moment très précis. On est le 13 juillet 1793. Dans un quartier qui n'existe plus à Paris, qui s'appelait le quartier du Faubourg Saint-Germain, qui aujourd'hui correspond un petit peu à Odéon.
Oui, c'est ça.
On est en fin de journée, il a fait très chaud, chaleur caniculaire. C'est des rues très étroites, les fenêtres sont ouvertes. Si on se baladait dans la rue des Cordeliers, vers 19h30, qu'est-ce qu'on entendrait ?
On entendrait le bruit des gens qui travaillent, on entendrait le bruit des gens qui reviennent chez eux. On entendrait le bruit des chevaux, et puis on entendrait le cri d'un homme, celui de Marat, qui, dans son hôtel de Cahors, donc dans l'actuelle rue de l'école de médecine, se fait assassiner par, à l'époque, une jeune inconnue, qui s'appelle Charlotte Corday. Et Marat travaille chez lui, il rédige son journal, l'ami du peuple, qui est très lu par les sans-culottes, c'est-à-dire les révolutionnaires les plus radicaux, par les soldats aussi aux armées, ce qui est très important. Gros électorat populaire. Et puis, il est très bien gardé, parce que ça fait longtemps que beaucoup de Françaises et Français veulent lui faire la peau. Parce qu'il est réputé comme un des plus radicaux et violents de la Révolution, ce qui est vrai. Hein, depuis l'automne 92, il appelle à la violence, clairement, hein, contre les députés qu'il estime être des traîtres à la Révolution, notamment les Girondins. Voilà, donc on entendrait ce cri-là, puis on entendrait le cri de tous les voisins qui arrivent, des femmes qui sont autour de lui. Si on se rapprochait un peu plus, on entendrait peut-être même le gargouillement de son sang qui glisse sur le parquet. Ça, c'est assez bien documenté, parce que par hasard, Charlotte Corday réussit très bien son coup, et par hasard, elle réussit à le tuer en un coup. Donc on entendrait tout ça, elle se fait arrêter tout de suite. Et le corps de Marat, lui, est transporté très vite, et exposé très vite dans l'amphithéâtre Saint-Côme, à deux pas d'ici. Hein. Il y a des écoles gratuites de dessin. Et là, il va être examiné et puis embaumé.
David Chantranne, vous êtes historien, vous êtes aussi l'auteur d'une biographie de Jacques-Louis David, l'empereur des peintres. On est le 13 juillet 1793, on est au Louvre. David habite dans la cour carrée, c'est là aussi qu'il a son atelier. Et il y a un bruit qui court dans Paris, qui vient de l'autre côté de la Seine. C'est quoi ce bruit ?
Ce bruit, c'est la mort de Marat. C'est un moment qui va marquer David parce qu'ils étaient proches, les deux hommes, qui marque aussi parce que c'est un moment où on va trouver en Marat un des grands martyrs de la Révolution, et surtout parce que David, c'est le hasard aussi de l'histoire, a rendu visite à l'ancien médecin devenu le chantre du comité de salut public. Il lui a rendu visite la veille et il a vu dans quelles conditions il avait vécu ces derniers temps. Donc il est tout désigné, David, alors qu'on apprend et qu'on officialise la mort de Marat, il est tout désigné pour prendre ses pinceaux. Alors qu'il avait laissé un peu de côté depuis quelques mois son art pour de grands discours, de grands moments d'histoire, de grands moments surtout politiques, dramatique, ça on le sait, mais il s'était fait de la Révolution et il devenait l'un des bras droits de Robespierre. Et là, cette fois-ci, Guiraud l'appelle en lui disant « David, où es-tu David ? Prends ton pinceau, il te reste encore un tableau à faire. »
Le lendemain, on est le 14 juillet 1793, la date n'est pas anodine, Marat a été sorti de sa baignoire, il est exposé au public, il fait chaud, il s'est vidé de son sang, il a une grave maladie de peau. Autant dire que le cadavre est déjà dans un très mauvais état. Jacques-Louis David pose son chevalet. Qu'est-ce qu'il a en face de lui, ce cadavre ? C'est quoi ? C'est un modèle ? C'est un ami ? C'est un député ?
C'est-à-dire, c'est tout ça à la fois. Ça dépasse totalement le caractère que vous décrivez, c'est-à-dire qu'il pourrait heurter les consciences. Il voit en Marat, justement, ce martyr, et c'est une sorte de Christ qui descend de la croix. Donc, il faut dépasser le caractère humain du personnage qu'il a en face de lui. Il va fixer ses traits par un dessin, puis il va organiser justement ses funérailles nationales pour faire de Marat justement le personnage qui doit marquer les consciences et qui doit montrer la frontière entre le bien et le mal. Et ensuite, il exécutera ce tableau. Donc ça passe par des étapes successives. Et j'allais presque dire que David sera à l'origine et à la finalisation de cette panthéonisation de Marat telle qu'on l'avait envisagée et dont il est à la fois l'organisateur et surtout le représentant par la peinture.
Acte 1, où David se jette dans l'élan révolutionnaire et y trouve un monde inédit à mettre en scène et un nouveau pouvoir à conquérir. Les arts vont reprendre toute leur dignité. Ils ne se prostitueront plus comme autrefois à retracer les actions d'un tyran ambitieux. Mon art est tout en action.
Votre pièce, Benjamin Lazare, La lame et le pinceau, elle se concentre sur la période révolutionnaire de Jacques-Louis David. Qui est Jacques-Louis David à l'été 1789 quand la révolution éclate ?
C'est un peintre qui a déjà beaucoup travaillé. En fait, quand la révolution éclate, il a un petit peu plus de 40 ans. Il va côtoyer des révolutionnaires qui sont plus jeunes que lui. Bon, ils n'étaient pas tous plus jeunes, mais quand même, il y en avait un certain nombre, comme Robespierre, comme Saint-Just, très jeune. Marat était un petit peu plus âgé. Donc c'est un peintre accompli, qui a du succès, qui a lutté pour cet accomplissement. Il a 37 ans quand il fait la peinture des Horaces qui le rend extrêmement célèbre, le Serment des Horaces. On sait que David fréquentait des salons où il pouvait y avoir des discours, des sensibilités républicaines, qu'il était franc-maçon, il avait connu Diderot, il a lu Voltaire, enfin voilà, il a une sensibilité républicaine certainement. D'ailleurs, il représente Brutus, il représente les Horaces, il représente voilà les temps de la République romaine, non sans référence et sans une volonté de passer au-delà de la royauté pour réfléchir à un autre régime. Pour autant, je ne sais pas dire qu'il était révolutionnaire avant la Révolution.
Pour entrer dans la vie et dans l'œuvre de Jacques-Louis David, Sébastien Allard, on se trouve là face à un immense tableau, le Serment des Horaces.
Alors, David exécute le Serment des Horaces alors qu'il a gravi déjà le cursus honorum pour devenir académicien. Et une fois qu'il est nommé académicien, il part à Rome en 1784 pour peindre ce tableau, alors qu'il vient d'être nommé académicien et que normalement il aurait dû rester à Paris. Et il exécute un tableau qui est une commande royale, et le moment qu'il représente, c'est le moment où le père des Horaces confie des épées à ses trois fils pour aller combattre les Curias. Et ici, on a les trois fils qui exécute d'une certaine manière la volonté du père, et on voit le père au centre de la composition qui reçoit une lumière arrivant de la gauche. Première idée du serment. Le serment, c'est une idée de la philosophie politique du XVIIIe siècle comme étant l'accord de volonté libre. Alors c'est un tableau qui, lorsqu'il a été présenté, parce que David a été assez malin, il a présenté son tableau à Rome avant de l'envoyer au salon à Paris. Parce que Rome, à ce moment-là, c'était la ville cosmopolite, l'Europe entière y était réunie. Son tableau fait l'effet d'une bombe. Personne n'a vu quelque chose d'aussi austère, avec un rythme très strictement ternaire. Trois colonnes, quasiment pas de décor, une Rome de pierre et de briques, donc une Rome entre guillemets réaliste, et puis cette scène très énergétique avec ce geste du père et des fils. Et donc, lorsqu'il la présente dans son atelier, tous les ambassadeurs, tous les cardinaux, toute la noblesse vient voir le tableau, et on ne parle que du peintre français, comme on disait à l'époque. Et donc, son tableau arrive à Paris, précédé de sa gloire européenne. Et c'est le tableau qui le lance, qui fait de lui le régénérateur de la peinture, et qui le lance. Ce tableau peut être considéré comme l'an 1 de la nouvelle peinture, celle que bien plus tard on appellera peinture néoclassique.
Pour la grandeur de mon tableau que vous me demandez, j'ai outrepassé la mesure que l'on m'avait donnée pour le roi. Elle me fut donnée de 10 sur 10. Mais ayant tourné ma composition de toutes les manières, voyant qu'elle perdait de son énergie, j'ai abandonné de faire un tableau pour le roi, et je l'ai fait pour moi. Jamais on ne me fera rien faire au détriment de ma gloire. David, 8 août 1785.
David Chantranne. Est-ce qu'on a une idée de son engagement ou de sa conscience politique au moment où la Révolution éclate ?
On en sait surtout énormément de choses par les différents élèves justement qui l'entourent. Gros, Giraudet, Ingres arrivera plus tard, mais Gros, Giraudet notamment, ont raconté quelle était son humeur du moment et comment il a accueilli les premiers épisodes de cette Révolution. On se souvient surtout des mots très durs qu'il exprime vis-à-vis de la reine elle-même. En substance, il dit que c'est une charogne dont il faut se débarrasser.
En fait, octobre 1789, il a déjà pris parti pour...
Il a pris parti, il a fait son choix. Et cet épisode, effectivement, où on sait que le roi, la reine et le dauphin, le fameux, donc le boulanger, la boulangère et le petit mitron, ont été rapatriés depuis les 5 et 6 octobre 89 à Paris, eh bien, David demande à ce qu'on aille beaucoup plus loin. Donc il est vraiment très radical dans son jugement. Et il préfigure déjà des avancées et une radicalité qu'on retrouvera surtout à partir de la Terreur.
14 juillet 1789, prise de la Bastille. 25 août, David expose deux tableaux au Salon du Louvre. Les licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils et les amours de Paris et d'Hélène. L'un est commandé par le roi, l'autre par le frère du roi. 26 août, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 7 septembre, Charlotte David, son épouse, offre ses bijoux à la toute nouvelle Assemblée nationale. 6 octobre, Lettre de David. C'est un grand malheur que cette charogne de Marie-Antoinette n'ait pas été étranglée ou taillée en morceaux par les émeutières, car tant qu'elle sera vivante, il n'y aura pas de paix dans ce royaume.
Guillaume Mazot, est-ce qu'on peut dire que David est le peintre officiel de la Révolution française ?
Oui et non, parce qu'il y en a plusieurs. Par contre, c'est celui qui s'impose clairement. Alors d'abord, parce qu'il est complètement épris de pouvoir. Ça, faut quand même le dire, c'est un homme de pouvoir, David. Pour le coup, on aurait tort de séparer l'homme et l'artiste, parce que c'est pas possible. Lui-même confond complètement les deux, ses engagements politiques et la pratique de l'art. Alors, c'est le cas de beaucoup d'artistes pendant la Révolution, mais pas de tous. Faut pas croire que tous se mettaient au service de la Révolution, d'une part, et faut pas croire que tous se positionnaient par rapport à la Révolution, non plus. Lui, il décide de le faire, et puis bah, il prend une place centrale quand même, hein, puisqu'il intègre non seulement les institutions révolutionnaires, le comité d'instruction publique, quand même, hein, depuis l'automne 1792. Et c'est le comité d'instruction publique, on dirait le ministère de la Culture aujourd'hui, hein, mais qui mélangerait le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est-à-dire que l'art et la création artistique est vraiment vu comme un outil par les révolutionnaires, hein, de conversion aux idéaux révolutionnaires. Alors, paradoxalement, de fabrication de l'idée critique, alors même qu'ils veulent convertir. Donc, ils sont dans des contradictions aux propres lumières. Hein. Et David est quand même là, un des pilotes, quand même, hein, un grand pilote de cette entreprise-là, de paternalisme révolutionnaire et de paternalisme républicain, hein, de conversion des classes populaires aux idéaux de la Révolution.
Ô ma patrie, ô ma chère patrie, nous ne serons donc plus obligés d'aller chercher dans l'histoire des peuples anciens de quoi exercer nos pinceaux. Les sujets manquaient aux artistes, obligés de se répéter, et maintenant les artistes manqueraient aux sujets ? Non, l'histoire d'aucun peuple ne m'offre rien de si grand. Non, je n'aurai pas besoin d'invoquer les dieux de la fable pour échauffer mon génie. Nation française, c'est ta gloire que je veux propager. David, février 1792.
Il faut quand même se rappeler des conditions dans lesquelles David est arrivé à cette importance, c'est qu'il a dû faire aussi preuve d'une certaine valeur et d'une certaine lutte contre les éléments. D'abord, il a une infirmité importante. Il a une grosseur à la joue, ce qu'on appelle une exostose, qui l'empêche de parler correctement et qui lui vaut les quolibets, voilà, les moqueries de ses camarades. Ça, c'est la première chose.
Grosse joue, on l'appellera.
Grosse joue, on l'appellera. Ça lui vaudra un quolibet qu'il va garder toute sa vie et... Voilà, il faut comprendre aussi peut-être ce caractère. La deuxième, c'est qu'il est orphelin de père très jeune. Son père qui faisait le commerce du fer, qui est de la mégisserie, là où il est né, hein, en août 1748, son père meurt alors qu'il est très jeune, victime d'un duel. Et donc, peut-être a-t-il gardé un certain caractère contre une vie qui était un peu difficile envers lui. Et ça peut expliquer, je ne dis pas que ça l'explique, mais ça peut expliquer aussi cette façon dont il se cherche toujours querelle contre certains adversaires qui ne sont pas forcément ceux qu'il imagine. Mais il est un petit peu dans cet esprit-là, et on le retrouve notamment dans certains courriers qu'il exagère cet emportement. Peut-être est-il dû à ces deux éléments qui ont marqué son enfance.
Il dit lui-même qu'il était peu doué pour la parole, il avait un problème d'élocution, sans doute dû à son problème à la joue, qui était, voilà, il avait un abcès qui lui déformait la joue.
Le metteur en scène, Benjamin Lazare.
On dit aussi qu'il grasseyait, qu'il tenait ça de son père.
Ça veut dire quoi, grasseyer ?
C'est sans doute une façon de dire les R de façon un petit peu lourde. Peut-être qu'il n'arrivait pas à rouler les R, or le R roulé était utilisé dans la déclamation. J'aurais aimé l'entendre.
Comment est-ce qu'il prononçait Marat, par exemple ?
Si on dit qu'il grasseille, peut-être qu'il faisait Mara, quelque chose comme ça. Voilà, je n'étais pas là pour l'entendre. Et donc, il a prononcé des discours, qui sont d'ailleurs très intéressants, mais il ne se jugeait pas à son meilleur à cet endroit-là. Par contre, ses peintures et les fêtes révolutionnaires et les cérémonies qu'il a imaginées, là, ce sont des discours en images.
David Chantranne. Jacques-Louis David, il peint l'histoire, mais il ne se contente pas de la peindre.
Non.
Aux Archives nationales, il y a, dans les archives des notaires de Paris, un dossier qui est assez épais, avec plein de documents administratifs qui sont autant de jalons, en fait, de la vie civile de Jacques-Louis David. Et il y a ce document-là. 17 septembre 1792, regardez, il y a un sceau de cire rouge. Je vous laisse lire.
Extrait du registre de l'Assemblée électorale du département de Paris. Du lundi 17 septembre 1792, l'an premier de l'égalité. On passe à l'appel nominal. Le résultat a donné 583 suffrages, la majorité absolue de 292 voix. Le citoyen David ayant obtenu 450 voix à 158 voix au-delà de la majorité absolue, le président a proclamé le citoyen David député du département de Paris à la Convention nationale.
Alors là, il faut nous expliquer comment David, peintre, devient David député.
Ça tient à deux choses. C'est une revanche contre la vie. Je vous l'ai évoqué, quand on sait que son père est mort dans des conditions un peu tragiques, il se dit qu'il a pris une revanche aussi en étant représentant finalement du peuple, ce qu'il recherche depuis longtemps. Et puis surtout, eh bien, il change véritablement aussi son, si l'on peut dire, son fusil d'épaule, sans jeu de mots aucun. C'est-à-dire qu'il troque ses pinceaux et sa palette contre une plume et des discours à la tribune. Donc il se dit que cela convient bien de présenter des tableaux agréables et intéressants qui peuvent frapper les esprits de quelques-uns, mais si on dirige directement son pays et qu'on le représente de manière beaucoup plus active, eh bien on aura davantage d'influence, et c'est ce qu'il veut faire en étant devenu et en étant élu député.
Guillaume Mazot, l'essentiel de la vie politique de Jacques-Louis David, il a lieu en 1793. Ça commence le 16 janvier par le vote sur la culpabilité et la mort de Louis XVI. David, quand il vote la mort de Louis XVI, est-ce qu'il est conscient qu'il y a tout un imaginaire politique et des images très concrètes qu'il va être chargé de refaire après ?
Oui, complètement. Bah, d'abord, son vote, c'est un vote montagnard, qu'on pourrait dire montagnard, parce que c'est la culpabilité et la mort. Et à ce moment-là, donc... Très vite, il est chargé d'organiser les funérailles d'un homme qui vient de se faire assassiner. Donc, il vote le 16 janvier, mais la veille de l'exécution de Louis XVI, l'exécution de Louis XVI qui a eu le 21 janvier, la veille, le 20 janvier, il y a un ancien garde du corps du roi qui poignarde un des députés qui a voté la mort du roi, le Pelletier de Saint-Fargeau. Et on confie très vite à David le soin de représenter le Pelletier de Saint-Fargeau sur son lit de mort, et surtout d'organiser la fête, en l'honneur de le Pelletier de Saint-Fargeau, qui devient le premier martyr de la liberté. C'est-à-dire qu'une semaine après avoir voté la mort du roi, il participe à inventer l'imagerie qui va sacraliser le peuple, qui va au contraire sacraliser un représentant du peuple, mort dans l'exercice quasiment de ses fonctions, et donc il va lui-même participer à ce que l'historienne Mona Ozouf appelle le transfert de sacralité de la mort du roi à la mort du peuple ou d'un représentant du peuple. Donc dès son vote, il est amené à repenser des nouvelles formes pour donner à ce régime qui est en train de s'inventer, on ne sait pas bien ce que c'est la République, une sacralité par l'image.
Un peu plus tard dans l'année, on en revient, Guillaume Mazot, à ce 13 juillet 1793. L'assassinat de Marat, c'est l'objet de votre thèse. C'est l'événement le plus représenté de la Révolution, encore plus que la prise de la Bastille et l'exécution de Louis XVI. David, là-dedans, quelle est sa particularité dans son Marat assassiné ?
Alors, il faut savoir que avant le Marat assassiné, que David termine à la mi-octobre, c'est-à-dire finalement, très tard, il y a déjà des dizaines et des dizaines d'images qui circulent sur l'assassinat de Marat. Et elles montrent toutes une image très différente. C'est la violence, c'est Charlotte Corday. La figure de Marat est quand même très ambivalente, même pour beaucoup de ses soutiens, puisqu'il est très violent, très radical. Et le tableau de David, il intervient vraiment comme un contrepoint. D'abord, il élimine Charlotte Corday. Et il représente finalement Marat en forme d'icône icône républicaine, on dirait une Pietà où il n'y aurait que Jésus. Marat, il faut savoir qu'il est comparé à Jésus, hein, en permanence, même pendant la Révolution. Le premier des sans-culottes, c'était Jésus, dit-on dans les milieux sans-culottes pendant la Révolution. Il y a le côté sacrificiel. Et puis, il en fait une sorte d'arme de combat qui sous-entend que, face au coup des contre-révolutionnaires, les gens comme Marat, et cette figure universelle qu'il est en train de peindre, le faisant, voilà, christique, hein, bah, les gens comme Marat se réveilleront toujours. Il tient encore la plume, il a les yeux mi-clos, il a la bouche ouverte. Enfin, il y a l'idée qu'il n'est pas vraiment mort, il dort, il est prêt à se relever. Et ça, c'est quand même incroyable. Ce tableau a d'abord une force esthétique folle, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Il invente une fiction, la fiction de la survie de la République.
On se trouve là, au cœur de l'exposition sur David, avec vous Sébastien Allard. Et en face de nous, on a quoi, un des chefs-d'œuvre de la Révolution, Marat assassiné?
Oui, c'est l'image, bon, pour employer un terme un peu galvaudé, mais c'est l'image iconique de la Révolution. C'est un tableau qui est très fort parce que c'est à la fois une œuvre d'art, un objet politique et l'hommage d'un homme à un ami, puisque David était proche de Marat. Ce tableau, en quelque sorte, arrive à l'issue des cérémonies des funérailles, puisqu'il est exposé dans la cour du Louvre sur un sarcophage le jour de l'exécution de Marie-Antoinette. Donc on a une œuvre d'art, mais une œuvre d'art, vous voyez, qui a une forme d'efficace, enfin qui est destinée à parler au peuple.
Baudelaire, 1846. Le divin Marat. Un bras pendant hors de la baignoire et retenant mollement sa dernière plume, la poitrine percée de la blessure sacrilège vient de rendre le dernier soupir. L'eau de la baignoire est rougie de sang. Le papier est sanglant. À terre, gît un grand couteau de cuisine trempé de sang. Sur un misérable support de planches qui composait le mobilier de travail de l'infatigable journaliste, on lit « Amara, David ».
Jacques-Louis David, au moment de la mort de Marat, est non seulement chargé de peindre l'assassinat de Marat, mais aussi d'organiser ses funérailles. Je vous laisse lire le texte que vous reproduisez dans votre pièce, Benjamin Lazare, qui est un compte-rendu des funérailles de Jean-Paul Marat.
N'en déplaise au compte-rendu servile, la cérémonie fut malsaine. Il n'y avait que 80 députés, accablés par la chaleur et la longueur du parcours. La peau de Marat, malgré l'embaumement, était devenue verte par la putréfaction. L'enfant qui tenait derrière sa tête un flambeau et la couronne civique commençait à en être incommodé. On brûlait de l'encens, mais il commença à manquer. Un homme entra chez un épicier de la rue Thionville et lui demanda « Avez-vous de l'encens ?»« Non, répondit l'épicier, mais avez-vous de la poirésine ?»« Oui, donnez-moi 3 livres. Le commandant vous payera. » La musique jouait des airs lugubres, les éclairs brillaient, mais l'orage attendu ne pouvait crever. Le canon s'est fait entendre toute la nuit.
Est-ce que Jacques-Louis David ne vit pas finalement entièrement dans ses idéaux?
Il veut faire advenir ses idéaux dans la réalité. Il veut agir, il veut créer des choses, il veut instituer par les images des idées nouvelles et il croit à l'efficacité des images pour le faire. C'est sûr qu'il y a une vie fantasmatique très forte de cet artiste, malgré son désir d'objectivité. Et il le pointe lui-même. Quand il commence une autobiographie, il parle de son enfance comme d'un lieu où s'est affirmée très vite la passion de peindre comme une passion exclusive. Et que il recouvrait enfant le parquet, les murs et les portes de ses dessins. Donc le monde était une toile qui se doublait des dessins de David. Ça dit, dès l'enfance, cette ambition, ce besoin de passer par la main pour se trouver sa place dans le monde.
Un peu plus tard, au cours de cet été 1793, Guillaume Mazot, David va plus loin dans son application dans la Révolution française. Le 14 septembre 1993, il devient membre du comité de sûreté générale. Qu'est-ce que c'est que ce comité? Dans quel contexte est-ce qu'il apparaît?
Alors, le comité de sûreté générale, il apparaît dès l'automne 1792, au moment où la République fait ses premiers pas, et surtout au moment où la guerre civile vraiment s'étend et est identifiée comme un problème majeur. Et à partir de ce moment-là, on décide de créer une institution qui soit chargée de la surveillance des citoyens. Donc c'est vraiment le moment où la République aggrave, je dirais, une contradiction qui est apparue dès le début, dès 1789, c'est-à-dire que de faire la révolution au nom de la liberté, de la sûreté individuelle et de la justice, et en même temps tout de suite renier ces principes-là en fabriquant du droit d'exception et des institutions d'exception, de l'état d'exception. Ça, c'est aussi une tradition qui remonte aux racines de la République française, dans laquelle on est encore engagé aujourd'hui. Et donc le comité de sûreté générale, c'est une sorte de super ministère de l'intérieur au ministère de la police, je dirais, qui est chargé d'être connecté avec les comités de surveillance localement pour essayer d'organiser la surveillance des citoyens, de la répression des citoyens, tout simplement, et de rogner les libertés individuelles. Alors, participer à ce comité de sûreté générale, c'est un vrai engagement dans la Révolution et dans ces institutions, je dirais, les plus répressives, les plus contradictoires avec les principes mêmes de la Révolution, avec une logique qui s'inspire complètement des logiques inquisitoriales. Et donc, ce que je veux dire, c'est que participer à ce comité-là, c'est évidemment complètement participer à la répression.
Alors, d'accord, c'est participer à ce qu'on appelle la terreur.
Complètement. Alors, la terreur, c'est un mot qui a été inventé après la terreur, c'est-à-dire après l'été 1793. Ça désigne une période qui va, en gros, du printemps 1793, donc à l'été 1794, et qui se définit par, je dirais, une généralisation des dérogations au droit ordinaire et une généralisation des mesures d'exception. Et donc, aujourd'hui, on appellerait ça une dérive illibérale ou autoritaire de la République, toujours en réaction à des nouveaux problèmes qui arrivent, mais qui, à la fin, finit par dessiner 17 000 exécutions à la guillotine et puis 200 000 morts dans l'ouest de la France. Enfin, voilà, donc on est dans le cas d'une répression quand même assez impressionnante, tout en essayant, par ailleurs, et David y participe aussi, de défendre aussi l'installation d'une république démocratique et sociale, en votant des projets d'éducation gratuite et nationale, en abolissant l'esclavage, quand même, c'est pas rien, enfin, etc. Donc c'est une période où il y a les contradictions, je dirais, de la Révolution s'entrechoquent totalement. Mais David est complètement un protagoniste de ces contradictions et c'est presque l'artiste de ces contradictions.
David Chantranne, est-ce que Jacques-Louis David a des morts sur la conscience?
Si on fait le compte de ceux qu'il a désignés et qu'il a envoyés à l'échafaud, de façon directe ou indirecte, on compte à peu près 320 personnes. Ce qui est encore plus terrible, c'est que parmi eux se trouvent notamment les frères Truden, qui avaient été ses mécènes dans ses premières années, dont il avait d'ailleurs bénéficié d'énormément d'appui et de soutien. Et sans coup férir et sans sourciller, il va les envoyer justement à la guillotine. Et de l'autre, mais là c'est un rapport plus large à l'histoire, c'est qu'il va également instruire le procès d'un autre personnage qui compte, c'est le vicomte de Bornay, le premier mari de Joséphine, et que sans vouloir faire d'humour noir, ce sera un des premiers mouvements d'aide en direction d'un futur Bonaparte. Est-ce que l'histoire eût été différente? C'est difficile de le dire, mais du moins, David va envoyer près de 320 personnes, et ça, au moins, c'est un compte qui existe.
Acte 2, où David dégringole du haut du sommet auquel il s'est hissé, et se retrouve en prison, seul face à un miroir. Je suis dans un abandon total. Je gémis seul.
Juillet 1794, précisément ce qu'on appelle, dans le calendrier républicain, 9 Thermidor.
C'est ça.
Fin de Robespierre. Il est où, David, au moment où Robespierre est arrêté et mis en prison?
Eh bien, il est chez lui. Il se fait porter pâle, il a senti que les mouvements étaient contraires, et alors que quelques jours auparavant, il avait dit à la tribune, à destination de l'incorruptible, « Toi, Robespierre, je te suivrai et je boirai la ciguë avant que tu ne périsses », eh bien, au moment où le coup fatal est apporté à Robespierre, on ne trouve plus David, Il se présente comme étant malade, qu'il garde le lit, qu'il ne peut pas se présenter à la tribune. Bien évidemment, on va aller le chercher, on va le conduire pour être jugé. Et il va faire en sorte que finalement, il va se déjuger de tout ce qu'il a dit, de toutes ses actions, de toutes ses interprétations, de tout ce qu'il a apporté aussi à la Révolution. Parce qu'on a évoqué les différents tableaux qu'il a réalisés, mais surtout, c'était l'instigateur, l'organisateur de toutes les grandes fêtes. Lorsqu'il y a eu une fête de l'être suprême, c'était David qui était à la manœuvre. Lorsqu'il fallait glorifier le peuple français, le représenter en Hercule, c'était David qui faisait faire ces grandes cérémonies publiques et c'était lui qui dirigeait directement tous les épisodes et qui donnait le programme organisationnel. Donc vraiment, David, il était à la manœuvre. Et comme par enchantement, lorsque Robespierre chute, eh bien, il n'est au courant de rien, il n'a rien vu, on a mal interprété ses volontés, et il s'est laissé emporter par Robespierre. Bref, c'est le reniement de Saint-Pierre, quoi.
Les méchants, combien ils m'ont abusé. N'allez pas cependant croire que j'ai jamais pu participer à leurs infâmes complots. Non. Non, mon cœur est pur. Ma tête seule a failli. Je n'ai jamais cherché autre chose dans mes ouvrages que d'inspirer l'amour des vertus. Jamais je n'ai aimé à représenter sur la toile des scènes de fureur ou de trahison et de vengeance. On ne m'appellera pas un peintre ami du sang. David, 16 novembre 1794.
Robespierre et Saint-Just ont été arrêtés, ont très vite été guillotinés. David, on lui a conseillé de ne pas venir le jour de l'arrestation, il n'est pas venu et c'est peut-être comme ça qu'il a échappé d'ailleurs à la guillotine une première fois. Mais il est tout de même accusé d'avoir été un des artisans de la terreur par sa présence au comité de sûreté générale, d'être un des bras armés de Robespierre, ou comme le dit un de ses accusateurs, d'être une de ses ombres, et que les ombres de Robespierre doivent disparaître de la surface de la terre.
Qu'est-ce qu'on risque à ce moment-là, quand on est un proche de Robespierre?
On risque l'arrestation et la mort, comme beaucoup de ses proches. Paradoxalement, David, il échappe à ça, c'est-à-dire qu'il est emprisonné à deux reprises, et il va passer la plupart du temps son incarcération à la prison du Luxembourg, qui est située au palais du Luxembourg, à l'actuel palais du Luxembourg. Et s'il échappe à ça, alors il échappe à ça comme de nombreux hommes. C'est-à-dire qu'il faut penser qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont échappé à la guillotine parce qu'ils avaient des relations, parce qu'il ne s'agissait pas non plus de se débarrasser de tout le monde, c'était impossible d'ailleurs. Et David en particulier, ben, il peut bénéficier, alors en tant qu'artiste aussi, et puis aussi parce qu'il a agi pour ça avant. Il a gardé une forme de clientèle dans tous les camps politiques. Il y a l'action de sa femme qui est très importante aussi, qui après avoir divorcé de lui, se remarie à lui. Donc il y a des stratégies familiales très puissantes, des stratégies politiques. Il y a ses élèves qui font des pétitions pour essayer de le réintégrer dans le jeu, etc. David, il échappe probablement à l'exécution grâce à sa capacité à rester au centre du jeu. Voilà, David, c'est quand même un malin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est habitué aux institutions, à la pratique des institutions et à leur revirement, depuis l'Académie royale jusqu'à l'Empire. Et donc, c'est pour ça qu'il échappe à la mort, probablement.
Sébastien Allard, on a devant nous, dans un grand cadre doré, un autoportrait de Jacques-Louis David. Il se trouve où, à ce moment-là, David ?
En prison. Et dans sa prison, il attend évidemment son sort et il sait quel il peut être, hein, puisqu'il a été lui-même au comité de sûreté générale. Donc, il demande à avoir un pinceau, une toile pour continuer à peindre. Et ce qu'il peint en prison, c'est cet autoportrait. Alors, pourquoi peindre un autoportrait ? Première hypothèse, on le voit dans ce regard extrêmement intense, enfin, qui a été révélé par la récente restauration, c'est sa détermination. Il affronte le regard lui-même du spectateur et il se présente, la palette à la main, cette palette toujours énergique, comme un peintre. C'est d'ailleurs un des arguments de sa défense. Il y a 14 chefs d'accusation et il dit « mais je n'ai été que peintre ». Donc il veut sauver sa tête à ce moment-là et je n'ai pas tout bien compris et j'ai été entraîné. Et on sent dans ce portrait où il y a à la fois cette... Il est amaigri. On voit que le manteau qu'il porte est un peu trop grand pour lui, mais en même temps, cette détermination à regarder son destin en face.
On voit de la force, de la détermination, et en même temps, on voit quelque chose d'inquiet, de la peur. Il y a vraiment ce double mouvement, j'y vois ce double mouvement. Il y a une touche tout à fait extraordinaire, enfin, la façon dont les couleurs sont en train de se mêler pour faire advenir le visage, c'est très très beau. Il a représenté son abcès à la joue, mais tout de même, il a mis une ombre qui vient l'atténuer un petit peu. Et puis, on voit aussi qu'il est quand même beaucoup plus jeune que ce qu'il était vraiment à cette époque-là. Ce que j'y ai lu, c'est que il avait peint sa jeunesse au moment où elle est en train de disparaître. C'est-à-dire que c'est un tableau, presque un tableau intérieur. C'est au moment où tout ce pan de sa vie va disparaître qu'il l'attrape.
Moi, ce tableau, il m'intéresse assez parce que j'y vois une des allégories de la fin de la terreur. C'est-à-dire, comme David, tous les Français sont invités à se regarder dans le miroir et à réfléchir sur leur engagement tumultueux, parfois compromettant. Moi, j'y vois le regard d'une France qui est engagée dans une réflexivité très douloureuse à la fin de la terreur.
L'autoportrait, c'est un côté pratique. C'est que c'est à la fois l'introspection, comme vous l'avez rappelé, mais c'est aussi pour donner une certaine publicité à tous ceux qui l'ont connu. Donc, on se dit qu'en faisant de la sorte, eh bien, il va se gagner peut-être de nouveaux soutiens, ce qui va d'ailleurs être le cas. Et puis l'autre aspect qu'il va faire en prison, c'est que d'abord, il va retrouver son épouse, qui vient lui rendre visite avec ses deux filles, qui va faire en sorte qu'il retrouve une vie de couple à peu près normale, et qui va être d'ailleurs une ardente défenseur de son ancien mari. Ils se remarieront en 1796. Et en étant dans cette cellule, il retrouve un peu d'humanité. Il est en train de se transformer et revenir peut-être à ses premiers enseignements tels qu'il les connaissait avant la Révolution.
Et probablement, ce qu'on voit là, on peut toujours faire une interprétation psychologique, sa détermination aussi à revenir sur le devant de la scène s'il échappe à la guillotine, et il va réussir à échapper à la guillotine et à être amnistié avec les conventionnels en 1795.
Benjamin Lazare, est-ce que par hasard, dans l'œuvre de David, il a pu parfois se représenter sous d'autres formes que simplement son aspect objectif?
Oui, on peut déceler David dans d'autres choses que ses autoportraits. Notamment, ce qui peut nous mettre sous la voie, c'est l'endroit où il a mis ses signatures. Une de ses premières commandes, c'est le portrait du comte Potocki, un comte polonais qui représente sur un cheval, et le cheval se cabre un peu parce qu'il y a un chien qui est en train de lui aboyer dessus très violemment. Ce chien est en bas à gauche du tableau, et ce chien est à la fois violent mais retenu par un collier. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce collier? Eh bien, le nom de Jacques-Louis David, qui a signé sur le collier du chien. Donc, on pourrait presque dire que s'il a signé sur ce collier, c'est que le chien, c'est lui, dans cette énergie retenue, qui finalement ressemble beaucoup à l'ensemble de ces tableaux et à la façon dont la violence est toujours à la fois très forte et contenue dans ses œuvres.
Il nous parle encore à nous, là, plus de 200 ans après, David.
C'est un artiste. Je pense que c'est l'artiste un peu du moment, parce qu'il y a la question de l'engagement, il y a la question de la réflexion sur l'action, alors qu'est-ce qu'on fait dans des moments extrêmement troublés? Il y a la question de à quoi sert l'art? Est-ce que c'est simplement le beau ou est-ce que ça a une action sur la société? Et puis il y a aussi une question sur quel est le meilleur moyen pour parler à son temps. Donc en gros, quel est le style le plus adapté au moment? David est à un moment de fondation. Et on voit bien que chez David, c'est ce que dit d'ailleurs Delacroix, c'est un mélange d'idéal, curieux mélange d'idéal et de réalisme. Il est entre ces deux pôles. Donc l'idéal, c'est le projet, c'est l'unité nationale, c'est la révolution, etc. Et le réalisme qui est là, présent dans cet autoportrait, c'est la confrontation avec l'histoire, avec le moment qu'il est en train de vivre.
Acte 3, où Napoléon Bonaparte apparaît et où David voit en lui celui qui sauvera la Révolution et qui le sauvera lui par la même occasion. Quel peintre! Quel poète fut jamais placé mieux que moi? Je me glisserai à la postérité, à l'ombre de mon héros.
Il échappe à la mort, il fait profil bas pour le restant de la Révolution et il trouve un personnage à qui s'agripper, on va dire, pour revenir au pouvoir. C'est Napoléon Bonaparte. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un reniement de ses convictions républicaines ou simplement une tentative de survivre à ce moment compliqué?
C'est les deux à la fois. L'attachement de David, en tout cas sa capacité à se dire bah tiens, je vais quand même continuer mon travail et à essayer d'incarner une forme d'artiste officiel du régime, c'est parce que beaucoup de gens croient en Bonaparte. Beaucoup de républicains croient en Bonaparte. Alors c'est des républicains conservateurs, hein, sous le consulat. Donc cette période-là qui va de 1799 à 1804, à la formation de l'Empire. Et tout le monde voit Bonaparte comme quelqu'un qui va aller rétablir l'ordre, une république sans la Révolution, là, cette fois-ci, et réconcilier la nation. C'est pas pour rien que c'est pendant son incarcération que David commence à peindre les Sabines.
Il l'imagine.
Il l'imagine, mais c'est pas une commande. Donc ça vient vraiment de lui, et c'est vraiment une allégorie de la réconciliation. De la réconciliation, de la fin de la guerre civile. Et donc, dès ce moment-là, il se place pour jouer un rôle, puisqu'il comprend que l'ascension de Bonaparte, c'est aussi, même déjà sous le Directoire, puisqu'il est incarcéré en 1795, c'est l'idée qu'il faut mettre fin à la guerre civile. La mort de Robespierre veut dire ça aussi. Hein. C'est la fin progressive des institutions d'exception, etc. Voilà, et donc, quand il peint ses premiers portraits de Bonaparte, et puis... quand il répond à la commande du roi d'Espagne, Charles VI, donc Bonaparte franchissant les Alpes au Grand Saint-Bernard, il le fait accrocher en 1801 au Louvre, donc vraiment pour le montrer, avec les Sabines d'ailleurs. C'est finalement une manière de faire survivre la République, je crois, de manière assez sincère, hein, tout en la confiant à un militaire. Ça fait quand même longtemps que la République, c'est aussi la guerre, et qu'il y a vraiment la volonté de rétablir l'ordre, un ordre républicain sans revenir à la monarchie. C'est aussi ça qu'il faut comprendre.
David Chantran, de quand est-ce qu'elle date la rencontre entre David et Napoléon?
Elle date de 1797. L'un des élèves de David, qui est Gros, est parti en Italie pour représenter un des épisodes importants de la campagne, la bataille du pont d'Arcole. Et Gros, enthousiaste, écrit à son maître en lui disant « Il faut absolument que vous veniez voir ce personnage qui est en train d'entrer dans l'histoire. Il faut que vous découvriez comment ça se passe ici. C'est totalement surprenant. On avait une armée en guenilles et maintenant ils sont à la tête de plein d'exploits. Venez absolument. » Donc David va sur place. Il aperçoit Napoléon, enfin Bonaparte encore, sans véritablement qu'il y ait eu d'échange. Et ça n'est seulement qu'au retour de ces armées, dites l'armée d'Italie, à la fin de l'année 1797, que David dîne aux côtés du jeune général Corse. C'est un coup de foudre mutuel. Et dès le lendemain, on retrouve Bonaparte dans l'atelier du peintre. Il lui accorde un signe d'honneur, parce qu'il n'aura plus le temps par la suite. Il lui accorde 3 heures de pause. Et de cette séance de pause, David va exécuter une tête inachevée. Ce portrait, il va longtemps figurer d'ailleurs sur les billets de 100 francs. Et enthousiaste, parce qu'il vient de connaître et de cette rencontre avec quasiment un homme qui va marquer l'histoire, David, maintenant que le général a quitté son atelier, fait convoquer tous ses élèves et il leur dit « Il est beau, il est pur, il est grand, il est beau comme l'antique. Mes amis, j'ai trouvé mon héros, il s'appelle Bonaparte. » Et donc on est passé tout simplement, en un coup de crayon, on est passé de Robespierre à Napoléon et il va lui rester fidèle de cette année 1797 jusqu'à sa mort en 1825.
Le tableau qui fait face aux Sabines en 1801, que David met en face de cette allégorie de la réconciliation de la Révolution, c'est celui qu'on a en face de nous, Sébastien Allard, Bonaparte franchissant les Alpes, sur son cheval qui est en train de cabrer. Stendhal, au début, dans la décennie, je crois que c'est 1810, rend visite à David dans son atelier. Il dit que David est obsédé par sa signature. Alors là, la signature, où est-ce qu'on la trouve sur ce Napoléon franchissant les Alpes ?
Bien, la signature, vous l'avez sur le harnais du cheval. Et c'est vrai que si on regarde les signatures de David, elles sont toujours dans des endroits très visibles. Et ici, elles sont sur le cheval. On pourrait dire comme si Bonaparte franchissant les Alpes, le général victorieux dont tout le monde a un petit peu peur, eh bien, emportait David pour accomplir le destin de la France. Enfin, c'est... peut-être.
Qu'est-ce qu'il voit dans Napoléon, Jacques-Louis David ? Est-ce qu'il voit un nouveau modèle dont il va profiter de la gloire pour faire fructifier la sienne ?
Il y a de ça. Et puis surtout, Napoléon, il réunit toutes ces contradictions ou toutes ces étapes que lui-même a connues. Il a été élève, je rappelle, dans les écoles royales militaires. Il est devenu un des officiers des débuts de la Révolution. Il était proche, non pas de Maximilien, mais d'Augustin Robespierre Bonaparte. Et quand arrive le moment de la chute, il a même été enfermé au Fort Carré d'Antibes. Donc, ils ont des parcours parallèles, David et Bonaparte. Et quand on a besoin de lui sur le champ de bataille, eh bien, on envoie Napoléon donc en Italie. Quand on a besoin de David pour représenter les moments importants du Directoire, eh bien, on fait appel à lui pour représenter l'enlèvement des Sabines. Eh bien, cette unité nationale que Bonaparte va ensuite incarner comme premier consul, puis ensuite comme empereur, eh bien, David, finalement, il est exactement dans le même mouvement. Et on va dire que leur destin parallèle est exactement tel qu'on l'imaginait, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin et de l'un et de l'autre.
Et David, sous l'Empire, est couvert d'honneur. Il est le premier peintre de l'empereur, il a la Légion d'honneur, etc., etc. Mais on sait très bien que quand on vous couvre d'honneur, bien souvent, c'est pour réduire votre marge d'action. Et David, en tant que peintre, n'a jamais obtenu ce qu'il espérait, c'est-à-dire de devenir un nouveau Lebrun, celui qui allait gouverner tous les arts, puisqu'il y a un ministre qui s'appelle Denon et qui n'entend pas laisser son pouvoir. Et puis il y a une administration moderne très lourde et très structurée qui se met en place et qui contrôle tout. Et David n'aura jamais eu aussi peu de liberté que sous l'Empire. Même sous l'Ancien Régime, jeune artiste, il a eu plus de liberté. Donc voilà, il y a une sorte de difficulté de David, une sorte d'ambivalence du rôle de David sous l'Empire.
Et David, lui, va très loin dans cette contradiction. Ses fils partent pour la campagne de Russie. Il marie ses filles à des généraux.
Oui.
Il devient baron.
Oui.
Et il se fait faire des armoiries.
C'est-à-dire qu'en réalité, il suit le mouvement. Et là, pour le coup, alors qu'avant, il était un petit peu à la tête des programmes robespierristes, là, il suit le mouvement et il se dit que chausser les pantoufles de cette période qui sent bourgeoise, ça n'est pas pour lui déplaire. Et donc, reniant un peu ses engagements passés, effectivement, il devient baron, il devient chevalier de la Légion d'honneur et ensuite commandant. On appelle ça aujourd'hui commandeur. Et David va être honoré de toutes sortes de commandes, va recevoir les grands tableaux du régime que sont le sacre et la distribution des aigles. Et donc David va se contenter ensuite de grands portraits, de grandes compositions allégoriques, de grands moments aussi d'histoire mythologique ou de l'Antiquité, pour justement toujours faire le parallèle entre le temps passé et l'exemple qu'on doit suivre pour le temps présent.
Alors, la trajectoire de David qui réussit effectivement à traverser la fin de l'Ancien Régime, le début de la Révolution, la République, le Consulat et l'Empire, c'est vrai que vu a posteriori, on pourrait l'enfermer dans une catégorie qui ressemblerait à la girouette et à l'opportuniste en fait. Hein. Et on pourrait dire que l'amour du pouvoir, comme Fouché, mais je pense aussi à Sieyès, je pense à Talleyrand, de toute une génération de gens qui ont quand même réussi à échapper à la prison. Alors David, lui, échappe pas à la prison, mais à la guillotine, à la mort, etc. Et qui, finalement, au lieu de rester sous le consulat, ils auraient pu très bien ne pas revenir au premier plan, et le font quand même. C'est pas seulement l'amour du pouvoir, c'est pas forcément une sorte de cynisme politique, même si ça compte, hein, évidemment. Rester dans le jeu, continuer à pratiquer son art au sommet, c'est aussi une forme paradoxalement sincère d'engagement républicain qui s'accommode des revirements du pouvoir. Finalement, les gens qui sont restés très fidèles à leurs idéaux premiers, il y en a très peu, hein. C'est les plus rares. C'est ceux qui sont morts, je dirais. C'est Robespierre. Précisément, David n'est pas Robespierre pour cette raison-là.
Épilogue, l'exil. 18 juin 1815. La défaite de Waterloo précipite la chute de Napoléon. David, 67 ans, met son marat assassiné en sécurité, puis découpe le tableau du sacre en 3 morceaux et les envoie, roulés, à un endroit où on ne pourra pas les trouver. 26 juin, il demande des papiers pour quitter le pays. 8 juillet, la France est de nouveau dirigée par un roi. 10 juillet 1815, David, régicide et bonapartiste, part en direction de la Suisse, puis de Bruxelles.
David Chantranne, là il lui reste 10 ans à vivre à David. Il part en 1815, il meurt à la fin de l'année 1825. Et il y a certains témoins qui disent qu'à la fin de sa vie, il avait des sortes de délires ou de cauchemars, où il s'imaginait monter à l'échafaud, où il entendait des voix comme des apparitions fantomatiques, peut-être des gens qu'il a envoyés à la mort. Est-ce qu'il y a, dans les dernières années de la vie de David, des traces de culpabilité?
Il ne fait pas d'auto-inspection, d'auto-introspection non plus. Il ne fait pas non plus son propre procès. En revanche, ce qui est sûr, c'est effectivement qu'il y a ces fameux délires de la fin de sa vie. En attendant, ce qui est important, c'est la façon dont il se comporte. Il va se détacher totalement de la politique, alors que dans un premier temps, lorsqu'il est arrivé à Bruxelles, il reçoit une proposition pour devenir l'un des grands peintres du roi de Prusse. Il refuse cet honneur et il reste à Bruxelles. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il se dit que son temps est passé et que surtout, il faut éviter de jouer ce jeu qui lui a été fatal. Et il va se contenter, entre guillemets, de n'être plus qu'un artiste qu'il va faire avec des peintures plutôt aimables. On retrouve un peu de la mythologie, on retrouve quelques événements comme la colère d'Achille. Et puis, il finira par peindre en 1824 Mars désarmé par Vénus entouré des Trois Grâces, un élément qui annonce déjà les peintres pompiers et dont même Ingres n'aurait peut-être pas voulu.
Sébastien Allard, il y a quelque chose de très émouvant dans une des lettres qu'il écrit au moment où il est en train de composer ce tableau. Il dit « C'est le dernier tableau que je veux faire, mais je veux m'y surpasser. J'y mettrai la date de mes 75 ans, et je ne veux plus ensuite toucher un pinceau. » Il se voit mourir, David ?
Oui, il est âgé hein, pour l'époque, 75 ans, il est un peu malade. Je pense qu'il sait qu'il n'en a plus pour très longtemps. Et vous vous rendez compte, l'œuvre est très grande pour un homme de son âge, de l'effort qu'a dû représenter, même s'il pouvait être aidé, l'effort qu'a pu représenter de peindre un tableau comme celui-ci. Et en plus, un tableau qui clôture finalement une carrière, parce qu'il voit bien que quelque chose d'autre est en train maintenant de naître.
Laissez-moi où je suis. Je ne demande rien. Je ne voulais que la tranquillité. Je l'éprouve. Je suis content. Adieu.
Jacques-Louis David, La fureur de peindre. Avec David Chantranne, Benjamin Lazare, Sébastien Allard et Guillaume Mazot. Merci à Aude Gobet. Lecture, Juliette Petiot. Prise de son, Virginie Lorda, Sandrine Malon et Nicolas Depagraf. Mixage, Emmanuel Armin. Toute une vie, chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Romain Weber et Julie Béressy.